On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 8. On connaît ce texte. Jésus a dit une dernière parole, une promesse essentielle avant de partir vers le ciel. C'était juste avant l'ascension. Il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia. Alors, ils sont restés dans la chambre haute pendant combien ? 10 jours, voilà, quelqu'un l'a dit, hein, pendant 10 jours. Peut-être que le premier jour, ils se sont dit, bon, ben, on va attendre un peu. Hein. Le Seigneur a promis, a demandé dans ce premier jour. Non, ben, ça ne vient pas. Peut-être que ce sera le deuxième, le troisième. 10 jours, c'est long, hein, quand même. Hein. Mais, dans Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, après cela, vous savez que ça a fait du bruit quand même, ces personnes qui étaient là en train de louer le Seigneur et dans cette particularité de louer le Seigneur, de chanter, ou je ne sais pas, mais en langue qu'ils n'avaient pas du tout appris et que le Saint-Esprit leur donnait. Et ça, ça a remué un petit peu, ça fait un petit peu de bruit. Et la foule s'était rapprochée, c'était 9h du matin. Et au verset 11, nous lisons ceci. Les gens se disaient, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ce jour-là, exceptionnellement, les parler en langue, il y avait des langues qui étaient comprises par les gens de passage dans la fête de Pentecôte à Jérusalem. Et ils se disaient, mais comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. On continue, et alors Pierre se lève au verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Alors il a continué à prêcher. On saute et on arrive au verset 37. Après avoir entendu ce discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Ils disaient à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et il les exhortait disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Alléluia. Et bien que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Vous avez certainement demandé à que le Seigneur bénisse notre culte et qu'il soit le bienvenu. Seigneur, sois le bienvenu au milieu de nous. Et avec ta parole, mais avec ton action invisible, mais combien efficace de ton esprit, marque-nous de ton empreinte, afin que nous puissions repartir de ce culte avec une marque venant de toi, qui s'imprime dans nos vies et qui nous fasse avancer. Alors, la semaine dernière, notre pasteur Alain nous a parlé de cette fête de Pentecôte que nous découvrons dans la parole de Dieu et comment le Saint-Esprit est venu la première fois et que cette promesse, elle est, comme Pierre le dit, pour l'Église de tous les temps et de partout, que ce soit à Jérusalem ou que ce soit ici à Arles. Alléluia. Et de l'autre côté aussi, là-bas en Polynésie, hein, on a prêché toujours la même parole, la même Bible. Et Dieu est toujours celui qui ne ment pas, qui honore sa parole. Et nous avons eu à cœur, en parlant avec Alain, quant à ma part en cette semaine, de continuer sur le même thème. Et, mardi, nous avons parlé que notre modèle Jésus montrer qu'il était si important pour lui d'être rempli du Saint-Esprit dans sa vie ici-bas incarnée. Et lui, il aurait pu se passer, comme d'après Jean-Baptiste du baptême d'eau, mais Jésus a dit non, 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 il faut faire ce qui est juste pour nous les hommes. Hein, et je vous montre l'exemple. Et ça a été aussi un exemple en étant lui-même conduit et dirigé par le Saint-Esprit en exerçant son ministère pareillement par la puissance du Saint-Esprit. Vendredi, nous avons un petit peu parlé de cela comme aussi donc une nécessité pour chacun d'entre nous. Et nous avons aussi, et mardi et vendredi, parlé de que dans le livre des Actes des Apôtres, la manière dont on pouvait voir la manifestation du baptême dans le Saint-Esprit était par l'expression du parler en langue. Et bien sûr que le baptême dans le Saint-Esprit devait ne pas s'arrêter à ce moment précis au démarrage, mais devait être une continuité pendant toute notre vie chrétienne. Mais les apôtres s'apercevaient des gens qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit, comme Pierre chez Corneille, parce qu'ils les entendaient parler en langue, parce qu'ils voyaient, etc., etc. Donc, vous voyez, nous voulons voir que c'est quelque chose de tout à fait fondé sur la parole de Dieu. Et nous avons dit que mardi prochain, après ces quelques périodes où nous parlons avec vous sur cette réalité offerte à tous les chrétiens et nécessaire à nous tous, eh bien, nous serons ensemble mardi pour nous laisser envahir par le Saint-Esprit. Si nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit déjà, eh bien, que Dieu nous renouvelle et souffle encore de sa flamme sur nous. Et si nous ne l'avons pas été, eh bien, qu'il puisse nous donner de voir la promesse de Dieu pour nous tous. Aucun des 120 n'a été privé. Non. Et nous aussi, nous sommes ici rassemblés en tant qu'Église. Et si nous ouvrons nos cœurs dans la foi aux promesses de Dieu, à la promesse de Dieu, et que nous y accrochons en disant Seigneur, c'est pas toi, c'est pas nous qui avons fait la promesse, c'est toi, alors accomplis cela. Et si c'est un jour, si c'est deux jours, si c'est 10 jours, mais sa promesse vient. Alléluia. C'est à nous de croire à cela et à le réclamer. Celui qui a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et c'est sûr que des fleuves d'eau vive couleront de son sein et il parlait du Saint-Esprit. Alléluia. Donc voilà, c'est quelques paroles d'introduction un petit peu pour remettre dans le contexte de toutes ces deux semaines que nous avons pu vivre déjà en partageant la parole de Dieu. Maintenant, ce matin, en s'appuyant sur ce texte que nous avons lu, nous pouvons voir l'importance et l'influence nécessaire et essentielle du Saint-Esprit pour la vie collective de l'Église et de l'Église aussi locale. En premier lieu, qu'est-ce que cela a produit ce jour-là? Bien, soudain, il y a eu comme résultat une dimension extraordinaire. C'est comme si c'était le ciel, d'ailleurs, c'était ouvert, hein, le vent venant, un bruit venant du ciel, le bruit du vent, des flammes de feu, le parler en langue, tout cela avec le Saint-Esprit qui vint sur ces personnes. Et comment ça s'est exprimé? Il nous est dit qu'ils se mirent à parler en langue et après, il nous est dit que les gens qui ont compris ce jour-là exceptionnellement, ils entendaient qu'ils parlaient des merveilles de Dieu. Il y avait une expression de louange, d'adoration, une dimension qui nous est révélée par ces gens qui ont compris exceptionnellement ce jour-là, une dimension dans la louange, dans l'adoration qui dépassait l'expression humaine et logique et nos capacités de réflexion. Il y a comme le ciel qui s'ouvre, comme une flamme de passion, de cœur qui découvre et qui se connecte avec le Seigneur. Et c'était quelque chose extraordinaire. Il y a pour le peuple de Pentecôte de ce jour-là et pour nous aussi, une adoration libre, spontanée, quelquefois selon les personnalités, même quelque peu exubérante, ce jour-là exceptionnellement. Mais après, vous savez qu'il y a eu quand même des enseignements comme quoi il nous faut de l'ordre et de la correction. Et moi, je suis contre ces choses qui perturbent de trop. Mais voilà. Donc, une adoration inspirée et libre et du fond du cœur, quelque chose qui était complètement au-delà de la dimension réfléchie, posée, calculateur, mais c'était la liberté, quelqu'un qui est débordant de la passion du Seigneur. C'est comme une fontaine, quand Jésus dit ça. C'est une source qui jaillit du cœur. Donc c'est la première expression. La deuxième expression que je découvre de ce jour-là, c'est qu'il y a eu soudain une hardiesse qui s'était saisie de ces chrétiens qu'ils n'avaient pas auparavant. Vous savez qu'ils étaient dans un moment vraiment déstabilisant. Il y avait Jésus qui est leur chef, qui a été crucifié, il y avait la haine qui était là, on le ressentait dans la ville, il y avait les moqueries de ces gens qui voulaient suivre quelqu'un qui allait transformer la société, mais voilà, tout s'écroule et ils étaient complètement défaits. Mais quand ils ont été visités du Saint-Esprit, il y a eu comme une transformation. Alors qu'ils s'enfermaient dans les portes et dans les lieux fermés, voilà que publiquement, avec une autorité inconnue, cet homme qui quelques jours auparavant avait renié le Seigneur, l'apôtre Pierre se lève avec courage, avec autorité, avec d'une manière incisive, sans trembler, regardant droit dans les yeux des autres, et bien sûr avec amour, bien sûr, mais avec une force extraordinaire, il a pu annoncer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous transforme. et qui nous donne dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, il nous est dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous avons tous une personnalité. Il y en a qui sont à l'aise en public, il y en a qui sont à l'aise dans la rencontre avec d'autres, qui conversent très rapidement, très facilement, ils sont des gens, et je les envie. Je vous assure que je fais partie de ceux qui sont réservés, c'est peut-être aussi ma nature de vietnamien et d'asiatique. On est plutôt des gens un petit peu, voilà, dans notre éducation. Et voilà, c'est comme cela. Peut-être qu'il y en a qui ont un peu cette nature-là au milieu de nous, je ne sais pas. Celui qui nous permet d'être courageux, de pouvoir affirmer notre foi dans certaines circonstances, sur notre lieu de travail quand il le faut, dans notre entourage, dans notre famille, dans notre voisinage, n'importe, celui qui nous permet d'être courageux et fort dans la foi et qui nous aide à dépasser notre nature peut-être timorée et timide, eh bien c'est le Saint-Esprit. C'est ce que Paul pouvait rappeler là quand il disait à Timothée, parce que c'est peut-être un jeune homme un peu dans ce style-là, d'être un peu par lui-même assez réservé. Et il lui rappelle, tu sais, cultive, développe, ouvre-toi encore et encore plus à la vie de l'Esprit. Laisse-toi inonder par le Saint-Esprit. C'est un esprit de force qui va dépasser ta réserve. Et bien sûr, nous ne devons pas être des extravagants à bousculer les gens et à être des goujats quelque part. Hein? Non, non. Mais Dieu nous donne une force de caractère, une force tranquille quelquefois. Hein? Mais dans la tranquillité même, on sent la force de quelqu'un qui est inébranlable dans le Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne pour que nous puissions être remplis d'une hardiesse, d'une détermination, d'une autorité qui se remarque. Et ça, les gens qui connaissaient Pierre et les autres disciples, ils se disaient, mais qu'est-ce qui a transformé ces gens-là? Comment ça se fait? La Bible nous dit dans l'Ancien Testament que le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras un autre homme. Hein, au sujet d'un leader de l'Ancien Testament. Quand le Saint-Esprit se saisit de nous. Quand le Saint-Esprit s'est saisi de Pierre et de l'Église, de la première Église, il y a une influence du Saint-Esprit sur la compréhension de la parole de Dieu. Vous avez remarqué dans ce que nous avons lu, l'apôtre Pierre a dit, voilà, ce que vous êtes en train de voir, ce que nous vivons en ce moment, c'est ce qui a été écrit à l'époque de Joël, le prophète. Et des passages, des textes de la Bible qui semblent, qui ne parlent pas en quelque sorte, le Saint-Esprit peut nous éclairer, peut nous ouvrir. Et quelque part dans notre vie chrétienne, c'est tellement important de laisser la place au Saint-Esprit dans notre vie parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui a inspiré des hommes pour être les instruments pour écrire la Bible. Mais l'auteur de la Bible, c'est Dieu et l'auteur de la Bible, c'est Dieu le Saint-Esprit. Et si nous, dans notre vie chrétienne, nous nous laissons remplir par le Saint-Esprit, l'auteur du livre est celui qui nous remplit, nous donnera une bien meilleure compréhension de ce que lui, il a écrit. La Bible nous dit dans l'autre passage que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit dynamise, apporte la vie et la compréhension à la parole de Dieu. Et je crois que plus nous laisserons le Saint-Esprit agir et présent dans notre vie, plus il nous apportera une efficacité dans une compréhension transformatrice de la parole de Dieu quand nous la lisons et que nous la méditons. Dans Jean, au chapitre 16, verset 13, il nous est dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. La parole de Dieu est la vérité. L'Esprit est l'Esprit de vérité. Et il y a là quelque chose qui se met ensemble entre tous les éléments et la personne divine du Saint-Esprit qui dynamise la vérité pour nous. Alléluia. Il nous conduit dans la vérité. Vous vous rappelez comment on avait parlé mardi de Jésus tenté dans le désert. Ça vous arrive, ça m'arrive, hein, d'être face à des subtilités que le diable met ou que les circonstances nous apportent et on ne sait pas trop. Hein. Mais que dans ce passage de la tentation de Jésus, il nous est dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et là, dans ces circonstances-là, le Saint-Esprit a pu lui rappeler, a rendu vivante la parole de Dieu que Jésus pouvait faire ressortir et résister à l'adversaire, à l'adversité et dans les circonstances. Le Seigneur nous conduira par son esprit. Il y a tant et tant de situations dans la vie où nous avons besoin que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous rappelle sa parole. Et bien sûr, pour cela, il nous faut la lire, hein. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut l'engranger au-dedans de nous. Et le Saint-Esprit le dynamisera au fur et à mesure et dans les circonstances nécessaires. Le Saint-Esprit a apporté ce jour-là à l'apôtre Pierre une prédication inspirée. Or, en tant que prédicateur, et bon, ayant été un petit peu enseigné à partager la parole de Dieu, etc., et avec d'autres, des experts en la matière du partage de la parole de Dieu, ce qu'on appelle homélétique, eh bien, on pourrait dire que Pierre, il n'était pas si fort que cela, ce jour-là. Hein. La manière dont il a, la méthode, la manière dont il a prêché, bon, c'était un peu bizarroïde, et quelquefois un peu décousu, d'après ce que nous pourrions dire. Par exemple, on va enseigner à des étudiants qui se forment pour la prédication. On ne va pas leur dire de suivre cet exemple-là d'une manière telle que c'est. Hein. Ça, c'est la manière humaine. Mais bien sûr, il nous faut étudier. Hein. Et c'est normal. Hein. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que au-delà de la capacité humaine qu'il nous faut développer, bien sûr. Ce jour-là, eh bien, ce qui touche les cœurs, c'était que cet homme ne s'était pas levé pour présenter un discours très bien construit, mais ce qu'il disait était dit avec l'onction du Saint-Esprit, était inspiré du Saint-Esprit. Il y avait une telle efficacité. Les paroles qu'il disait étaient accompagnées par l'action du Saint-Esprit dans les cœurs. Et chaque parole qui sortait était des paroles de vie. Et c'était extraordinaire. Ça touchait jusqu'à ce que 3000 se soient finalement décidés. L'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, « Ma parole Et ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Je prie le Seigneur pour que nous soyons les uns les autres, et nous-mêmes, et moi-même en tout premier lieu, que nous ne soyons pas simplement des gens qui se fondent que sur notre capacité humaine, notre intelligence humaine, mais que nous puissions plus que jamais, avec tout cela, dépendre du Saint-Esprit et de dire, Seigneur, si tu dois me faire dire au-delà de ce que je ne sais pas dire et au-delà de ce que j'ai préparé ou n'importe, mais si tu prends le lead, hein, la direction, si c'est cela, Seigneur, c'est ce qui sera efficace. Une prédication vraiment appropriée, inspirée, ointe. Et quand nous témoignons du Seigneur, quand nous sommes en contact les uns avec les autres, eh bien, si nous nous laissons remplir du Saint-Esprit, eh bien, ce que nous faisons aura une autre efficacité que tous nos efforts sans le Saint-Esprit. Je remarque également que la prédication inspirée du Saint-Esprit et la vie d'une église inspirée du Saint-Esprit mettra toujours Jésus à l'honneur. Toujours, toujours Jésus à l'honneur. Malgré tout, en disséquant la prédication de l'apôtre Pierre, il y avait quand même, malgré tout, un certain ordre et un certain message. Et en fait, le message était de présenter Jésus, Dieu le Fils, venant assurer que Dieu, que Jésus est Dieu, que son œuvre à la croix est vraie, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Tout le message est sur Jésus. Le Saint-Esprit, là où le Seigneur agit par son esprit, Jésus sera toujours mis en avant. Ce sera toujours comme cela. Parce qu'il est dit dans Jean au chapitre 15, verset 26, Jésus pouvait dire, le Saint-Esprit rendra témoignage de moi. Si nous allons dans une église et où Jésus n'est pas annoncé, où on fait de la moralité simplement, c'est bien la moralité. C'est formidable. Aussi, je ne sais pas moi, c'est un club d'entretien pour une chose ou une autre. Il y a de très bonnes choses. Mais le but essentiel que le Seigneur dit du Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, quand il viendra, il témoignera de moi. Et si nous voulons que le Saint-Esprit soit à l'aise au milieu de nous, nous le voyons et nous le cultivons en donnant toujours la priorité à Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Dans les églises où on fait du pasteur ou du dirigeant ou des pasteurs des one-man shows, des célébrités, c'est lui la vedette et c'est pas Jésus, non, ça va pas. Et donc, nous devons faire attention dans les courants d'aujourd'hui où des noms d'hommes ou de femmes sont mis en avant plus que Jésus, même si leur ministère pourrait peut-être avoir et certainement ont de l'impact, mais il faut toujours veiller à ce que ça ne soit pas un homme qui soit mis en avant, mais que ça soit Jésus. Il est mis à l'honneur. Et dans Jean, au chapitre 16, toujours, et au verset 14, Jésus dit, le Consolateur, le Saint-Esprit, quand il viendra, il me glorifiera. Tout à l'heure, nous avons lu, il témoignera de moi, et dans ce verset, il est dit, il me glorifiera. Il ne donnera pas la gloire à quelqu'un d'autre. C'est Jésus. Le Saint-Esprit
mets en avant Jésus. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Et que nous puissions dans nos églises toujours et toujours parler de Jésus. Que nous soyons toujours, entre guillemets, amoureux de Jésus. Et quand nous le sommes, quand notre cœur déborde de Jésus, alors on va parler de celui qu'on aime, de celle qu'on aime. On va l'exalter, on va le décrire, on va dire de belles choses sur cette personne. Eh bien, si une église est remplie du Saint-Esprit et donne la place au Saint-Esprit, on le remarque. Parce que Jésus est toujours mis en avant et élevé. Une exaltation de Jésus-Christ. Je découvre aussi que le Saint-Esprit entraîne l'Église au jour de la Pentecôte à avoir un amour profond pour les âmes perdues. Vous avez remarqué ces gens qui ont persécuté ces chrétiens. On imagine l'atmosphère de cette époque pour ces premiers chrétiens. Toute la ville, le maximum, la majorité était contre eux. Mais quand on voit un homme, quand on voit les 120, quand on voit les 11 apôtres avec Pierre qui se lève, et il nous a dit, et Pierre les conjurait, les exhortait, il les suppliait à se tourner vers Jésus. Il y avait un amour extraordinaire qui était déversé en eux, là, avec des cœurs remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met dans nos cœurs cette passion pour les âmes. Il y a comme un amour qu'on ne peut pas éteindre. On ne peut pas rester insensible quand on entend, par exemple, dans le voisinage, des personnes en détresse, et on va chercher tous les moyens, on se tient devant Dieu pour prier pour eux, on se dit, mais Seigneur, donne-moi une occasion, et on va chercher dans une ruse du cœur, de dire, mais Seigneur, inspire-moi et donne-moi le moyen de pouvoir leur présenter Jésus, parce que c'est la seule réponse à leur détresse. Et il y a toujours dans notre cœur quelque chose pour les âmes perdues. Et tout cela, quand nous nous laissons remplir du Saint-Esprit. C'est une conséquence. L'Esprit développe en nous cette nature de compassion. Vous vous rappelez de Luc au chapitre 4, quand Jésus pouvait lire, on a cité ce verset déjà, quand Jésus, dans la synagogue, pouvait lire ce texte d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour aller vers les aveugles, vers les opprimés, vers ceux qui sont enchaînés, vers ceux qui sont malheureux, pour leur annoncer la grâce. » C'est l'Esprit du Seigneur. Il a comme intention, comme but. Et quelquefois, quand nous évaluons notre vie et nous découvrons que nous voyons la détresse du monde et que nous sommes devenus blasés, que ça ne nous touche même pas, c'est un clignotant qu'on a besoin d'être renouvelé dans l'esprit d'amour du Seigneur. On a besoin d'être renouvelé dans la flamme du Seigneur. Depuis quand n'avons-nous pas les uns ou les autres parlé de Jésus? Eh bien, si nous désirons retrouver cette flamme, ce n'est pas en se disant « Ah, il faudrait que je témoigne. Ouais. » La meilleure façon, c'est de dire ça. C'est le signe que j'ai besoin de venir de nouveau devant le Seigneur pour
faut être rempli du Saint-Esprit. Et automatiquement, quand l'Esprit de Dieu, le Seigneur qui est sauveur, le Seigneur qui veut venir au secours d'un monde perdu, si ce Seigneur par l'Esprit me remplit, alors sa nature de compassion sera dans notre cœur. Et même ceux qui nous auront fait du mal, on n'a pas envie de leur rendre le mal. On a envie de leur partager quand même l'Évangile et de prier, d'espérer dans le Seigneur pour que le Seigneur les change. L'Esprit du Seigneur, quand il est sur nous, nous donne aussi un zèle joyeux pour servir Dieu et cela au sein de l'Église. Donc, nous n'avons pas lu, mais après ce les versets que nous avons lus, les baptêmes des 3000 personnes et que eux-mêmes, après le baptême d'eau, ils aient reçu aussi avec les 120 eux-mêmes, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Eh bien, il nous est dit que, alors, tous les jours, à partir du verset 42 à 47, si c'est projeté, vous voyez, mais voilà, il nous est dit que, eh bien, maintenant, tous les jours, ils étaient là, persévérant dans l'expression de la vie locale, de la famille de Dieu, de cet endroit. Ils étaient persévérants dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et tout cela, ils aimaient cela. C'est la conséquence d'une vie passionnée, d'une vie remplie du Saint-Esprit. Et si nous n'avons plus de passion, tout à l'heure je parlais de la passion pour les âmes, mais si nous n'avons plus vraiment une passion pour l'Église locale, c'est une question aussi. Et c'est un clignotant pour dire, ah Seigneur, comment faire pour retrouver tout cela? La réponse, c'est encore et toujours la vie de l'Esprit. Ils étaient, quand on voit toute la liste de ce que nous découvrons là, il y avait une solidarité entre eux, qui avait débuté dans l'unité de la chambre haute. Il y avait une solidarité pour se soutenir, les faibles, les forts. Il y avait une générosité pour pourvoir, pour se soucier des uns et des autres. On ne fait pas que simplement acte de présence, on rentre et on sort et on ignore les uns et les autres. Je suis contre cette expression quand certains disent « Oh mais viens à l'église, t'inquiète pas des autres, t'as eu des problèmes, t'inquiète pas, tu viens que pour le Seigneur. » Non, non. Et si tu veux avoir que le Seigneur, reste chez toi. Mais ce n'est pas du tout biblique. Si on vient à l'église, le Seigneur est là parce qu'il a dit que là où on se rassemble en son nom, il est là. Mais on vient pour les frères et les sœurs. Et on sait que quand on est ensemble, on a des frottements de caractère et de difficultés. Mais jamais le Seigneur a dit, ben écoute Pierre, va dans ton coin et André de l'autre côté parce que tu sais, vous... Non, non, non. Et le Saint-Esprit nous aide au milieu de nos failles et de nos faiblesses et de notre nature réciproque à se frotter les uns les autres et des fois, bon, mais il nous transforme comme cela petit à petit. Hein. Il nous faut malgré tout. Hein. Et la Bible dit veillez les uns sur les autres. Surveillez, non pas comme des espions, mais veillez les uns sur les autres. Et le Saint-Esprit aidait à cela. L'Église de Pentecôte, les premiers temps, eh bien, ils étaient là. Ils avaient un esprit de générosité et de soutien mutuel. L'Église de Pentecôte, c'est une Église qui a une expression, une foi particulière pour vivre et pour accueillir le surnaturel au milieu de nous. C'était agréable tout à l'heure d'entendre notre frère Marcelin dire un exaucement de guérison au milieu de nous. Et on a tellement besoin des choses du Seigneur. Nous sommes si limités. Au chapitre 3, quand Pierre et Jean disaient, mais nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi au nom de Jésus. Hein? Et le miracle est accompli pour ce boiteux. Et puis, le livre des Actes des Apôtres fourmille d'actions miraculeuses de la part du Seigneur. On ne va pas les citer, mais vous irez les voir dans la parole de Dieu. Et il nous est dit dans le chapitre 10, verset 38, que, dans la prédication de l'apôtre, il pouvait dire ceci au sujet de Jésus. Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Dieu a, comment ? Oint du Saint-Esprit, Jésus. Pour qu'il y ait avec le Saint-Esprit l'expression de la compassion du Seigneur et de la puissance du Seigneur au travers de délivrances, de miracles. Oui, le Seigneur ne change pas. Oui, le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. Oui, je vois si peu de miracles que, Seigneur, c'est une preuve que j'ai encore et toujours plus besoin de ton esprit dans ma vie. Parce que moi, je suis incapable par moi-même de faire les miracles. Je suis incapable moi-même de faire quoi que ce soit. Et qu'est-ce que tu peux faire au travers de moi? C'est toi qui fais par ton Saint-Esprit sur l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit qui met cela en œuvre. Alléluia. Donc, c'est cela, l'Église de Jésus et l'Église de l'Esprit. Pas seulement une étiquette, hein? L'Église de Pentecôte. Oh Seigneur, plus que jamais, nous avons envie de vivre cela. L'Église de Pentecôte, c'est une Église qui a une haute aspiration vers la sainteté. Pas seulement vers la puissance, pas seulement vers le miraculeux, pas seulement vers la joie intérieure d'une vie débordante dans le contact avec le Seigneur, mais plus le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit, plus nous voulons vivre dans la crainte amoureuse de Dieu, respectueuse de Dieu, qui nous conduit à une vie dans les valeurs de Dieu. L'Église de Pentecôte, c'est une Église qui ne se laisse pas simplement entraîner dans l'excitation de l'expérience, mais qui savent, c'est une église qui sait qu'on appelle l'Esprit, comment? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est saint. Celui qui veut nous remplir et qui nous remplit, il est saint. Et nous avons besoin de réaliser cela. Vous rappelez dans le chapitre 5, comment ces façons de faire d'Ananias et Saphira, où il y a du clair-obscur, ils apportent une offrande tout en voulant faire croire par les autres que c'est tout, alors qu'on ne leur demande pas de tout donner, non? Non, mais à vouloir mentir de cette manière-là et tout cela. Qu'est-ce que Pierre a dit? Tu sais, vous savez, vous êtes en train de mentir au Saint-Esprit. Et il y a eu un jugement terrible où tous les deux là sont morts. Pourtant Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu voulait montrer à cette église de Pentecôte que il y a, tout en ayant cette force, ce dynamisme, cette capacité de témoigner, d'avancer, il y avait aussi une vie en profondeur et dans la réalité de sainteté et de droiture. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide, vous connaissez dans Galates au chapitre 5, 22, qui nous aide à développer le fruit de toutes les valeurs de Dieu. Que le Seigneur nous aide à aimer à être rempli du Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous transforme.
C'est le Saint-Esprit qui nous transforme à ressembler davantage au Seigneur.
Je lis par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18, et peut-être c'est l'un des versets qu'on va peut-être encore un autre point, puis on terminera. Dans ce verset, il nous est dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » L'Esprit, c'est Dieu. D'accord, hein? C'est écrit là. « Car l'Esprit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là, où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. C'est l'action du Saint-Esprit, pas en la même image de gloire en gloire, comme par qui cette transformation? Comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Tandis que nous venons en sa présence. C'est l'Esprit de Dieu quand nous venons le visage découvert, c'est-à-dire en toute vérité. Quand nous sommes vrais devant le Seigneur et quand nous prenons du temps pour passer devant le Seigneur. Seigneur qui imprime son caractère, sa nature de sainteté et de valeur qui ne sont pas dans notre chair à nous et qui nous transforme. Nous devons être des chrétiens qui grandissons et qui cultivons la vie de l'esprit pour qu'on fasse constamment des progrès. Et qu'en grandissant, alors que nous sommes nés de nouveau dans le Seigneur, en grandissant, on puisse dire, ben, tu ressembles à ton papa, hein? qu'on puisse, plus on grandit et plus on ressemble et on ressemble encore plus au Seigneur dans notre dans nos valeurs, dans notre nature de cœur. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à cela. Enfin, je dis une dernière chose, c'est que ce jour-là, le Saint-Esprit, en fait, pas seulement ce jour-là, mais normalement, hein, pour, dans la suite des Actes des Apôtres, jusqu'à ce jour. Et vous savez que certains appellent le livre des Actes des Apôtres les Actes du Saint-Esprit. Et ils n'ont pas tort. Hein. C'est le Saint-Esprit au travers de ces apôtres et au travers de l'Église. Bien, le Saint-Esprit communique une énergie passionnée et irrésistible pour l'atteinte des non-évangélisés. Je ramène cela un petit peu vers la mission. Hein. Nous ne devons pas simplement penser à nous, mais nous devons avoir un cœur pour le monde perdu. Pas seulement pour ceux que nous côtoyons parce qu'ils sont dans le même district, la même région géographique, mais le Saint-Esprit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans nos cœurs doit bouillonner une passion et un soutien pour toute action à l'égard des non-évangélisés. Que ce soit par nos prières, que ce soit par nos dons, que ce soit en nous levant et en nous disposant à aider, à faire ceci ou faire cela, à répondre à l'appel de Dieu, que le Seigneur fasse lever encore. Mais, eh bien, c'est un esprit missionnaire. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand je lis au chapitre 13, verset 2, alors qu'ils étaient, les serviteurs de Dieu étaient dans l'église locale d'Antioche et qu'une équipe de serviteurs était là, il nous est dit au verset 2, l'Esprit dit, certainement au travers de quelques dons spirituels ou saisis de conviction aussi et de contrôle entre eux, mais ils ont compris que c'est le Saint-Esprit. L'Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est l'Esprit qui parle. C'est l'Esprit qui envoie. C'est Dieu, bien sûr, hein? Dieu dans sa
globalité, dans son unité. Mais ici, il est bien dit, l'Esprit dit que le Seigneur se saisisse encore de nous, de notre Église, de nos vies et de nos Églises, pour que le Saint-Esprit puisse encore être au contrôle de l'Église, contrôle du mouvement, et nous entraîner